Et c'est le moment de cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Parlons aujourd'hui protection de la jeunesse. Selon le bilan de la Direction de la protection de la jeunesse pour l'année 2022-2023, la DPJ a traité plus de 135 000 signalements. Grâce à ceux-là, ben, c'est 42 800 enfants qui ont été pris en charge. Et ça représente 10 000 enfants de plus par rapport à l'année 2003-2004. On reçoit aujourd'hui Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, pour nous parler de protection de la jeunesse. Sophia, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Tout d'abord, commençons par la base avec quelques définitions. C'est toujours un bon point de départ. Qu'est-ce que l'autorité parentale?
Alors, l'autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et d'obligations que les parents ont envers leurs enfants à compter du jour de leur naissance et jusqu'à l'âge de 18 ans. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exercice de l'autorité parentale se caractérise par son dualisme. Qui veut dire que tous les droits conférés par l'autorité parentale sont aussi des obligations. Et cela englobe les droits et les obligations de garde, de surveillance, d'entretien et d'éducation de l'enfant. Mais au-delà de ça, l'autorité parentale a aussi une autre particularité, et c'est le fait qu'il n'est pas possible de renoncer volontairement à son exercice. Donc, en tant que parent, je ne peux pas du jour au lendemain me débarrasser légalement de mes droits et obligations envers mon enfant. En revanche, il se pourrait que je sois privée partiellement ou totalement de mon autorité parentale si l'intérêt de l'enfant est en jeu et que le DPJ doive, par exemple, intervenir afin de protéger les droits de mon enfant.
Qu'est-ce que la protection de la jeunesse, en définition, là, exactement son rôle, puis en quoi ça consiste exactement?
Alors, le directeur de la protection de la jeunesse, donc le DPJ, est un organisme au Québec qui est chargé d'intervenir et d'agir dans les situations où la sécurité d'un enfant est compromise ou lorsque son développement est à risque. Ainsi, le DPJ est chargé d'appliquer la loi sur la protection de la jeunesse, qu'on appelle la LPJ, dans la région où il est nommé. Et il faut savoir que la LPJ, dans sa définition de ce qu'est un enfant, ça désigne une personne de moins de 18 ans, ce qui implique que cette loi s'applique aussi aux adolescents.
C'est quoi les motifs qui pourraient indiquer que la sécurité d'un enfant est compromise, Sophia?
Alors, il y a plusieurs motifs qui peuvent mener à croire que la sécurité d'un enfant est compromise. Et contrairement à ce que l'on peut penser, un enfant n'a pas à être dans une situation de vie ou de mort pour qu'il soit considéré comme étant réellement en danger. Donc, dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, la LPJ, certains comportements initialement perçus comme anodins peuvent avoir des conséquences significatives. Et parmi ces comportements, on peut citer, donc, par exemple, on a l'abandon. Donc, c'est si les parents de l'enfant n'assument pas son entretien, son éducation ou ses soins, ou encore quand les parents de l'enfant sont décédés et que personne ne peut en prendre soin. Ensuite, on a aussi la négligence. Donc, par exemple, l'enfant n'a pas assez de nourriture, il n'est pas bien surveillé pour son âge, ou encore il vit dans un milieu insalubre. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais traitement psychologique. Donc, quand l'enfant subit un rejet affectif, un contrôle excessif ou de l'exploitation, ou encore quand il est victime de menaces ou d'humiliations constantes. On a aussi, parmi les motifs de mise en danger à ne pas ignorer, on a l'exposition à la violence conjugale. Donc, c'est quand l'enfant est fréquemment témoin de violences verbales ou physiques entre ses parents. Puis, pour conclure la liste, on mentionne également les abus physiques et sexuels. Donc, lorsque l'enfant subit ou encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel ou de la violence physique.
Puis, comment fonctionne le système de signalement là, en cas de suspicion de danger ou de risque de danger pour un enfant?
Alors, selon la LPJ, toute personne qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis est tenue de signaler sans délai la situation au DPJ. Alors, lorsque le DPJ reçoit le signalement, il fait d'abord une analyse sommaire de la situation. Donc, il se base sur les informations qu'il a en sa possession à ce moment-là pour décider si le signalement est fondé ou non et pour déterminer le degré d'urgence de l'intervention. Ce qui veut dire que le DPJ peut juger dès le départ qu'il n'y a pas lieu de retenir un signalement. Et dans ce cas, il met fin à l'intervention et accompagne les parents et l'enfant pour qu'ils aient accès à des services d'aide s'il y a lieu de le faire. Cependant, lorsque le DPJ décide de retenir un signalement, il procède à une évaluation approfondie des circonstances en tenant compte non seulement des caractéristiques physiques de l'enfant et de la nature du signalement, mais aussi de l'implication des parents. Puis finalement, s'il juge qu'il y a des éléments probants qui déterminent que le développement ou la sécurité de l'enfant est à risque, il devra décider des mesures appropriées à prendre dans cette situation, que ce soit auprès des parents ou auprès d'un tribunal.
Puis c'est quoi les étapes là, après avoir reçu le signalement d'un enfant?
Alors, le DPJ peut mettre en place des mesures de protection immédiate si la situation est urgente. Ces mesures durent généralement 48 heures maximum. Et elle consiste par exemple à retirer immédiatement l'enfant du lieu où il se trouve, confier l'enfant sans délai à un établissement adapté à ses besoins, ou encore confier l'enfant à un membre de la famille ou à une famille d'accueil. Mmh. Et si les mesures sont toujours nécessaires après cette période, le DPJ peut faire une demande de prolongation de mesure au tribunal, ou il peut passer une entente avec l'accord et la volonté des parents, qu'on appelle entente provisoire. Mais il existe aussi un autre type d'entente, appelée entente sur les mesures volontaires, qui sert à éviter un recours au tribunal quand on a une entente entre le DPJ, les parents et l'enfant s'il est âgé de 14 ans et plus, s'ils y consentent. L'entente sur les mesures volontaires a généralement une durée de maximum 12 mois et à la fin de l'entente, le DPJ va réviser la situation.
Okay.
Dans certains cas, l'entente peut être renouvelée ou modifiée, en sachant que durant tout le processus, les parents vont devoir rencontrer régulièrement une intervenante qui va les aider à maintenir et appliquer les mesures qui ont été prises. Et puis pour finir, l'intervention du DPJ s'arrête lorsque le signalement n'est plus retenu ou lorsque la sécurité de développement de l'enfant cesse d'être compromis ou encore lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
Parlons des parents maintenant là, qui sont impliqués dans une affaire de protection de la jeunesse. Est-ce qu'ils ont des droits?
Alors oui, malgré le fait que certaines situations font en sorte que le DPJ doive intervenir pour faire respecter les droits des enfants, cela ne veut pas dire que les parents ou leurs droits vont être complètement écrasés. Alors ainsi, les parents doivent non seulement être traités avec respect et diligence, mais leurs renseignements doivent également être gardés confidentiels par le DPJ. Et aussi, ils ont le droit d'être au courant de toutes les décisions concernant leur enfant à la protection de la jeunesse. C'est pourquoi la loi sur la protection de la jeunesse encourage fortement les autorités à consulter et à faire participer les parents à la prise de décision. Ils ont donc le droit de refuser ou d'exposer leur point de vue par rapport aux recommandations émises par le DPJ.
Okay.
Et comme dans la plupart des recours devant la justice, les parents ont le droit d'être représentés par un avocat ou d'être assistés par la personne de leur choix.
Au niveau des enfants maintenant qui sont impliqués dans une affaire à la protection de la jeunesse, quels sont leurs droits à eux?
Alors, l'enfant a d'abord le droit d'être entendu. Il a le droit de comprendre ce qui se passe, ce qui veut dire que les informations et les explications qui lui sont transmises doivent être exprimées en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. Et avant tout transfert d'un milieu de vie substitué à un autre, il doit recevoir l'information et la préparation nécessaire à son transfert. Ensuite, l'enfant a le droit d'être accompagné et assisté par une personne de son choix dans tout le processus. Et il a le droit d'être aidé s'il a des problèmes de santé ou des problèmes sociaux.
Okay.
Et finalement, l'enfant a le droit à la confidentialité de ses renseignements. Et il pourra communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et sœurs, ainsi qu'avec toute autre personne, à moins que le tribunal en décide autrement.
C'est quoi les conséquences possibles pour une famille quand des mesures de protection de la jeunesse sont mises en place?
Alors, comme on l'a vu, les parents ont la possibilité d'être actifs dans tout le processus de leur enfant à la protection de la jeunesse. Ainsi, une initiative accrue des parents dans la vie de leur enfant dans ce processus peut permettre une atténuation des mesures de protection au moment de la révision des mesures. Et au contraire, si les parents ne favorisent pas le bien-être et la sécurité de leur enfant, les mesures peuvent être solidifiées, ce qui veut dire que l'enfant peut être placé et demeurer en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Et ça pourrait même aboutir à un processus d'adoption si le DPJ le juge nécessaire et dans l'intérêt de l'enfant. Si le tribunal juge en faveur de l'adoption, les parents perdent dans ce cas-là complètement leur droit à l'autorité parentale.
Au niveau des professionnels en matière de protection de la jeunesse, c'est quoi leurs obligations?
Alors, toute personne qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant serait compromis et qui, dans le cadre de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à un enfant, est obligée de le signaler sans délai au directeur de la protection de la jeunesse. Cela veut dire que ça vaut aussi pour les éducateurs, les policiers, les employés d'un service de garde ou tout autre employé d'un établissement. Et par ailleurs, cette obligation incombe aussi aux personnes liées par un secret professionnel, sauf pour les juristes qui reçoivent certaines informations dans le cadre de leur profession.
Puis c'est quoi les obligations du public en matière de protection de la jeunesse?
Alors, comme on l'a dit, les signalements faits au DPJ sont confidentiels. Donc, le public peut contribuer à la protection de la jeunesse en signalant avec motif raisonnable toute situation mettant en danger la sécurité d'un enfant. Il est aussi possible d'apporter directement l'aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes à propos d'une situation qui porte atteinte à sa sécurité ou celle d'un autre enfant. Mais il faudra tout de même garder en tête qu'il est primordial d'agir de bonne foi dans ce processus, sinon quoi vous pourriez être exposé à des poursuites en justice.
On a fait un survol rapide, Sophia. Si nos auditeurs ont des questions ou s'ils veulent en savoir plus sur le sujet, comment on procède?
Alors, ils peuvent toujours nous contacter au CJPO. Ils peuvent nous joindre soit par téléphone, donc en 819-600-4600. Je répète, 819-600-4600. Et ils peuvent également nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Un grand merci, puis à bientôt.
Merci à toi, Sébastien. Au revoir.